Chaque année, en fait, au début du congrès du Parti communiste vietnamien, un même mystère entoure l'organisation de cet événement. C'est clair que pour les 5 prochaines années, en fait, la vie politique du Vietnam sera déterminée par ce congrès. Clairement, en fait, un congrès du Parti communiste vietnamien détermine 3 choses. Premièrement, la ligne politique du pays, 2 rapports politiques. 2 rapports seront fournis devant les membres du comité central, un rapport politique et un rapport économique. Ces 2 rapports contiennent les orientations générales pour les 5 prochaines années du pays. De ce point de vue-là, il est clair qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises. Un consensus risque d'être adopté en fait par les membres du comité central. Par contre, l'enjeu qu'on retrouve tous les 5 ans en fait à l'approche d'un congrès, c'est l'enjeu au niveau du personnel. Et cette année, plus que en 2011, lors du 11e congrès du Parti communiste vietnamien, il y a plusieurs postes qui sont remis en jeu, notamment celui de l'ultra-puissant Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dung. Et c'est là, en fait, que réside l'inconnu et la tension autour de ce 12e congrès.
Alors, il y a deux factions qui s'affrontent. Donc, l'une considérée comme conservatrice, menée par l'actuel secrétaire du parti, et l'autre plus réformiste, en tout cas selon l'Occident, menée par l'actuel Premier ministre. Qui sont ces deux hommes et sur quel point s'affrontent-ils exactement?
Il faut savoir qu'au Vietnam que la classe politique n'est pas divisée en deux gros groupes, les réformateurs contre les conservateurs, et notamment à travers la préparation et la présentation des rapports politiques et économiques au sein de ce congrès. Les grandes orientations ne divisent pas la classe politique vietnamienne. Il y a un consensus au niveau de l'ouverture économique du pays. Il y a un consensus au niveau de l'ancrage du Vietnam sur la scène régionale et sur la scène internationale. Ce ne sont pas ces grandes idées, ces grandes orientations politiques et économiques qui divisent la classe politique vietnamienne. C'est clair que la relation entre le secrétaire général du parti, Nguyen Phu Chum, et celle du Premier ministre, Nguyen Thanh Dung, sont difficiles, mais elles le sont, on va dire, consubstantivement du système politique vietnamien, et on l'avait déjà observé lors du précédent congrès en 2011. Il faut savoir que le Premier ministre a un territoire déterminé. C'est lui qui gère la relation économique du Vietnam avec le monde, et notamment avec l'Occident, et notamment avec les États-Unis. Alors qu'à l'inverse, le territoire du secrétaire général du parti, Nguyen Phu Chum, gère essentiellement la relation idéologique avec le grand pays frère parfois compliqué qui est la Chine. Donc ce sont deux territoires qui marquent les hommes politiques qui ont ces postes-là. Ce qui a changé cette année, et c'est pour ça que ce 12e congrès s'annonce compliqué, c'est que le Premier ministre n'a pas caché son ambition depuis 12 mois d'essayer de briguer au poste de secrétaire général du parti. Ce qui change complètement la donne, ce qui bouleverse complètement le jeu politique au sein de l'appareil vietnamien, et ce qui crée naturellement des mécontentements et ce qui a augmenté les tensions entre le parti et le Premier ministre.
Donc en fait, c'est plus une guerre de pouvoir entre deux hommes que finalement des dissensions sur une ligne politique pour le pays.
On est plus dans cet ordre effectivement d'idées. Il faut savoir que faire de la politique au Vietnam a un prix, cela coûte cher, et on a des clans qui s'affrontent au sein de l'appareil politique pour justement essayer de protéger, de créer des cliques, des factions qui vont irriguer l'ensemble du système politique vietnamien pendant les 5 prochaines années. Politiquement et idéologiquement, à l'issue de ce congrès, il ne faut pas s'attendre à d'énormes ruptures. Le pays, depuis 30 ans, ça fait 30 ans cette année que la politique d'ouverture économique du Vietnam a été lancée, en 1986, ça fait 30 ans que le pays est géré entre ouverture économique à tout va et un certain centralisme politique. Et c'est comme ça un petit peu que cette emprise politique, elle continue véritablement à être un enjeu très important pour le Parti communiste vietnamien.
Au niveau de l'idéologie, quelle est la ligne de ce 12e congrès?
Il y a une désaffection qui est nette et qui est claire vis-à-vis du marxisme à l'intérieur même du parti. C'est cette dimension, en fait, davantage, de, pas idéologique, mais de politique, de désunion et de rivalité interne qui compte, en fait, dans le fonctionnement ou le déroulement d'un congrès du parti tous les 5 ans. L'enjeu, en fait, pour le Vietnam aujourd'hui, l'enjeu pour les élites vietnamiennes aujourd'hui, donc à la fois le parti, mais également l'armée, le gouvernement, c'est de maintenir une emprise politique tout en favorisant ou en renforçant une politique d'ouverture économique dynamique. Avec plus de 92 millions d'habitants, une jeunesse qui est fortement demandeuse en termes d'amélioration de son quotidien, en termes de rêves matériels et d'ouverture à l'Occident, le parti ne peut pas se permettre aujourd'hui de se couper de ses aspirations et il s'appuie véritablement sur un enrichissement de la société davantage que sur des discours idéologiques ou marqués par le marxisme. Donc aujourd'hui, réformateur ou conservateur, d'un point de vue économique, tout est à l'ouverture.
Et qu'en est-il du point de vue de la politique internationale? L'actuel secrétaire général est perçu comme plus proche de Pékin, le Premier ministre plutôt pro-occidental. Est-ce que c'est réellement le cas?
L'Occident, effectivement, a toujours voulu penser que Nguyen Tan Dung était pro-américain parce que il avait été l'avocat de l'intégration du Vietnam à l'OMC, de la signature du TPP, etc. Mais c'était son job. En tant que Premier ministre, son job, c'était de renouer les contacts et d'intégrer économiquement le Vietnam sur la scène internationale. En plus, il avait certaines appétences. Et le job de Nguyen Phu Chom, le secrétaire général du parti, c'était de gérer la relation idéologique avec Pékin. Il avait certaines appétences. Mais vous ne trouverez personne au sommet de l'État du Vietnam, à l'issue de ce congrès, qui sera prêt à choisir un camp plutôt qu'un autre. Il y aura toujours une recherche de cet équilibre, tempérer l'ardeur, le nationalisme chinois, par des relations plus fournies, plus denses avec les États-Unis, avec la communauté internationale, c'est une évidence. Une chose aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Vietnam est extrêmement intégré économiquement et politiquement avec l'Asie. Le Japon, la Corée, Taïwan représentent pour Hanoï une façon d'équilibrer sa relation et son partenariat avec la Chine. Le Vietnam ne va pas devenir pro-américain ou pro-chinois à l'issue de ce congrès. Le Vietnam va essayer de maintenir sa position, son indépendance dans une recherche d'équilibre diplomatique.
Oui, donc il n'y aura pas de conséquences à l'issue de ce congrès sur la politique étrangère du Vietnam?
Je ne pense pas. Ils n'ont pas les moyens, la classe politique n'a pas les moyens d'avoir une politique fondamentalement opposée ou trop indépendante par rapport à un voisin qui est un voisin important, premier partenaire commercial du Vietnam, un important partenaire idéologique, et avec laquelle, naturellement, il y a des difficultés en mer de Chine méridionale qui sont anciennes et qui vont perdurer. L'année dernière, il y a eu une date très importante au Vietnam, qui était le 40e anniversaire de la chute ou de la libération de Saigon, le 30 avril 2015. Et Nguyen Tan Dung, en tant que Premier ministre, à Ho Chi Minh Ville, il a fait un grand discours qui était extrêmement dur par rapport aux Américains. C'est un caméléon. Faire de la politique au Vietnam, on ne peut pas choisir de camp. C'est impossible. La Chine est partout, elle est partout présente. Il serait irréaliste pour la classe politique vietnamienne de dire voilà, on va devenir un allié des Américains parce qu'on a des problèmes en mer de Chine méridionale. Ils ne peuvent pas.